Dans une précédente émission radio, nous vous avons parlé d'un univers très particulier et célèbre, celui de Star Wars, et nous nous étions intéressés notamment à tout ce qui était bande dessinée. Et bien aujourd'hui avec Emily, nous allons regarder du côté d'un autre univers, tout aussi américain, tout aussi célèbre là-bas aux États-Unis, mais qui pour le coup, contrairement à Star Wars, est beaucoup moins connu sur une latitude, à part peut-être si à une époque vous avez regardé une série télé qui était inspirée par l'un de ces personnages. Si ce générique ne vous parle pas, Emily va vous donner un peu plus de lumière sur cet univers de bande dessinée célèbre aux États-Unis dont nous allons parler aujourd'hui. Bonjour Emily.
Bonjour, on vient d'entendre donc le générique de Sabrina la petite sorcière qui était une superbe série télévision, l'histoire, l'apprentissage de Sabrina et de ses deux tantes avec son chat Salem avec qui il y avait plein de péripéties. Donc là, je vais quand même vous parler de ce qui est l'origine, quand même.
Oui, parce que Sabrina fait partie d'un univers, nous allons dire, voilà, beaucoup plus étendu.
Qui s'appelle Archie Comics.
And now, the Riverdale Carnival presents the Archies.
Take care of the kissing booth while we're singing, Sabrina.
Okay, everybody, here we go with our new hit record, Sugar, Sugar.
Sugar, oh honey, honey, you are my candy girl, and you got me wanting you, honey, oh sugar, sugar.
Alors Archie fait sa première apparition dans la revue Pep Comics, le numéro 22 en décembre 41, et il était dessiné originellement par Bob Montana, mais la maison d'édition ne s'appelait pas encore Archie Comics.
Non, elle s'appelait donc MLJ, comme en fait c'est l'acronyme du nom de chacun des créateurs, et quelques années plus tard, a été baptisé Archie Comics, parce qu'en fait, originellement, il faisait des comics qui n'étaient pas que du Archie. Il faisait du super-héros, d'ailleurs The Shield, qui donnera Captain America. C'est Archie, ils l'ont créé avant Marvel. Mais de tout leur catalogue, le seul qui est vraiment resté et qui est devenu le fer de lance en fait, de la maison d'édition, c'est Archie. Et donc ils sont appelés plus tard Archie Comics.
Oui, parce qu'en fait, de 1941 à nos jours, c'est une bande dessinée qui n'a jamais cessé de paraître.
Tout à fait.
Et qui, contrairement à des super-héros donc de maisons d'édition type Marvel et DC, n'a pas connu nécessairement de reboot, mais s'est enrichi au fur et à mesure des années de nouveaux personnages, de nouvelles situations et de nouveaux titres.
Oui, alors faut quand même pas non plus pousser Mimi dans les orties, hein, parce que on va dire jusqu'en 2012, il n'y a pas eu énormément de gros changements. Hein. En fait, Archie a fait que d'hésiter entre Betty et Veronica pendant grosso modo 60 ans.
Hein. Oui, parce que c'est un triangle amoureux donc qui est installé dès le début quasiment, je crois, dès 1940.
Dès le premier numéro, hein, en fait, hein, ça commence.
En fait,
y a Veronica qui débarque, une nouvelle élève, Betty.
PEP numéro 26, en fait, en avril 42. Voilà ce que je cherchais dans mes notes. Donc Véronica débarque lors de ce numéro, et c'est le début de cet éternel triangle amoureux, Archie, Betty, Véronica, qui sera résolu, comme tu le notais, près de 60 ans plus tard, voilà, en 2012, avec d'ailleurs, à ce moment-là, différentes publications présentant...
Voilà, la version « Il s'est marié avec Betty », la version « Il s'est marié avec Véronica ». Donc en fait, ça s'est résolu oui et non. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le public, il y en a certains qui étaient pro-Betty, pro-Véronica, personne ne se mettait d'accord. L'éditeur, il a dit, bon, on va pas faire plouf-plouf, parce que personne ne va être content. Et en fait, donc ils ont fait, ça s'appelait Archie's Married Life, et en fait, ils ont fait un numéro spécial, donc il s'est marié avec Betty, youpi youpi, et un numéro spécial, il s'est marié avec Véronica, youpi youpi. Donc ça, c'était en 2012. Mais grosso modo, effectivement, il y a eu de nouveaux... personnage, mais on va dire le corps dur n'a pas changé depuis 1941, c'est les mêmes ressorts. On pourrait dire quand même, par exemple, si vous avez vu la série Happy Days, la série Happy Days, grosso modo, c'est Archie décomplexé. Parce que bon, il y a deux, trois trucs, Fonzie, il est cool.
Voilà.
Fonzie, il est cool. Donc il n'y a pas de Fonzie, donc forcément il n'y a pas le côté situation un peu cocasse qu'on peut avoir dans Happy Days. Mais c'est le. Happy Days a pas tout volé, mais on va dire que c'est fortement,
c'est
inspiré,
fortement
de
inspiré
de ce comics.
À noter quand même que. En matière, on va dire, d'audience, non seulement ce fut Archie Comics dans les années 40, les années 50, des bandes dessinées, mais aussi une émission radio, et puis différentes publications, puisqu'il n'y avait pas que le titre Archie, puisque certains des personnages, comme on le notait, ont eu droit à des bandes dessinées qui leur étaient dédiées, voilà.
Etc.
Exactement. Et après les années 70, donc, puisqu'en fait... sans aller nécessairement trop dans le détail, on a eu aussi des dessins animés, Archie.
Oui. Et il y a eu Archie et Mystère aussi. Ils ont fait une...
Parce c'était au fait... début des années 2000, ça.
Voilà, mais en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'au départ, Archie Comics, c'était une filiale de Columbia. Et en fait, ils faisaient des pulps et des romans de gare et beaucoup de mystères et d'horreurs et de choses comme ça. Et c'est comme ça, en fait, c'est
les
aussi pour ça. Les
mystères étant des romans policiers légers.
Voilà, légers, voilà. Avec toujours aussi des illustrations. Comme les pulps, c'était les romans de gare, c'était souvent avec une illustration. Enfin, c'est pour ça que c'était aussi léger, c'est que c'était pas un graphic novel où il y avait voilà, c'était mais il y avait toujours des illustrations. Et au départ, ça venait aussi de ça. Enfin, c'était ça. Donc, c'est pas étonnant qu'ils se soient tournés sur Archie et Mister. Et puis en fait, c'était aussi, je pense, pour concurrencer Martin Mister,
voilà,
qui marchait bien.
Sachant d'ailleurs, dans les années 60, tu me fais penser à cela, il y a eu plusieurs titres qui étaient là pour faire écho à des séries télé. Donc par exemple, si vous avez peut-être vu ce film « Agents très spéciaux » qui est sorti il y a de ça 2 ans, qui se voulait l'adaptation au cinéma d'une série télé des années 60, qui s'appelait aussi « Agents très spéciaux », mais qui s'appelait en américain « Man for Uncle ». Donc en fait, je crois là.
Oui, oui.
Et bien en fait, Archie lui-même a eu droit à son adaptation bande dessinée dans les années 60, donc d'agents très spéciaux. Il a même eu une petite version en fait super-héroïque, voilà. Mais donc vous le comprenez à travers les quelques minutes que nous venons d'échanger sur ce passé d'Archie. Archie est une figure emblématique de la culture populaire américaine dans la seconde moitié du XXe siècle et qui, au tout début des années 2000, nous allons le voir maintenant, que ce soit en bande dessinée ou bien en série télé, a su complètement se renouveler et rentrer dans une nouvelle ère.
Alors oui, il faut attendre 2010 avant qu'on atteigne le 21e siècle pour Archie.
Donc après l'histoire du mariage.
Exactement. En fait, en 2012 est apparu Kevin Keller, donc le premier personnage ouvertement gay de l'univers d'Archie. Alors effectivement, ça peut sembler risible, ou on va dire... semblait être pas un grand pas, mais il faut vous imaginer quand même que c'était un univers un peu rigide et ça a été une grosse...
représentative d'une certaine sociologie américaine
dans
laquelle on ne peut pas évoquer ces questions-là.
Voilà, exactement. Et là, pour le coup, le coming out s'est fait tout naturellement. Il mangeait un hamburger avec Jughead et il lui a dit « Ah non, mais au fait, je suis gay, quoi. Je préfère les garçons, donc ouais, enfin Betty, Véronica, pouf pouf, quoi. Ouais, elles sont jolies, mais pas
ça
plus intérêt que ça,
pas.
Quoi. Voilà, exactement. Ça a eu un tel impact qu'ils en ont même fait une mini-série qui a eu beaucoup de succès. Kevin Keller est devenu, alors qu'il est tout récent, hein, 2012, il a que 5 ans ce personnage, est devenu vraiment un personnage emblématique, même des comics classiques qui continuent à apparaître.
Oui, parce qu'il est à noter que si le 21e siècle est là et bien présent chez Archie Comics, ils ont continué pendant très longtemps et ils continuent à éditer des bandes dessinées qui graphiquement ont peu bougé depuis les années 40. Disons que les traits principaux des séries ont peu évolué à travers les décennies.
Actuellement, la politique éditoriale, elle a trois directions. Il y a l'univers classique qui continue, donc chaque mois, en fait... On a l'univers Archie tel qu'on qui n'a pas beaucoup progressé, qui est toujours là dans les années 50, même graphisme, même ressort scénaristique. Ensuite, il y a ce qu'on peut dire, il y a eu un reboot qui a été fait, puisque c'est très à la mode, en 2015. Donc il y a un univers qui est beaucoup plus proche de Riverdale, de la série télé.
Dont on parlera tout à l'heure.
Et ils ont fait une série qui est rétro-horreur, qui est sublime. Donc il y a deux séries régulières, qui sont toutes deux scénarisées par Roberto Aguirre-Sacasa.
La première, Afterlife with Archie, et la deuxième, Chilling Adventure of Sabrina.
Voilà, tout à fait. Donc tout est dit, tout est dans les titres. Afterlife, donc c'est des histoires de morts-vivants. Et Sabrina, donc c'est des histoires d'horreur.
Ces deux titres que tu m'as fait découvrir, alors si on peut en parler un tout petit peu, sachant que ce sont des bandes dessinées qui ne sont pas traduites en français, nous parlons de bandes dessinées strictement américaines. Donc Afterlife, with Archie, à la suite d'un accident de la route, le chien de Jughead, Hot Dog, se retrouve au bord de la mort et même finit par décéder. Et Sabrina lui vient en aide en ramenant celui-ci d'entre les morts. Mais ce qu'elle ne sait pas, ce qu'elle ne voit pas au départ, c'est qu'en fait, elle vient de faire rentrer dans l'univers d'Archie une invasion zombie qui va s'étendre depuis le chien, en passant par Jughead, jusqu'à d'autres personnages. Et c'est tout l'univers en fait, d'Archie qui s'effondre. Et au dessin, on a Francesco Francavilla, qui donne un côté, tu parlais de rétro-horreur, et là clairement on est dans du rétro-horrifique à fond, c'est-à-dire que si on a un peu en tête quelques affiches de films d'horreur années 50, années 60, on est graphiquement dans cette veine-là.
Alors si jamais vous voulez voir ce que donne graphiquement Francesco Francavilla, en français a été édité chez Urban Black Beetle, qui est justement aussi une reprise d'un ancien super-héros des années 50, dont c'est tombé dans le domaine public, et qui a été publié donc, chez Urban. C'est un one-shot, donc vous pouvez comprendre tout, c'est un seul album. Donc graphiquement, ça peut vous donner une idée sur ce que ça donne, c'est très très beau. Alors l'ambiance, c'est plus Walking Dead que Archie et ses copines, parce qu'en fait, on suit, là on est dans, en fait, on rentre quand même directement dans le sujet. On comprend en fait comment ça s'est passé, mais on rentre dans le sujet, en gros, c'est
on est Archie, au cœur de l'action.
Voilà, Archie essaie de survivre, et c'est un peu le chaos, c'est post-apocalyptique, il reste pas grand-chose du côté Happy Days, là, c'est vraiment genre, on est avec des battes de baseball et on essaie de se frayer des chemins, et surtout, c'est très difficile de fracasser le crâne de Jughead, quoi, par exemple, c'est son ami de toujours.
Oui, parce qu'il y a le côté... cette série, justement, les personnages, ceux qui deviennent des zombies, ne sont pas des anonymes, mais à chaque fois des personnages qui, du fait de la grande histoire d'Archie, ont tous un vécu avec tous un vécu, surtout auprès du lectorat. Donc le lecteur qui s'intéresse à ça ne voit pas juste un petit personnage en particulier, il voit quelqu'un avec beaucoup plus d'épaisseur et beaucoup plus d'histoire. Donc il y a un côté émotionnel peut-être un peu plus fort, qu'on ne ressent pas nécessairement comme moi quand on n'est pas un grand lecteur d'Archie et qu'on découvre quasiment ce titre réellement avec cet Afterlife with Archie. Il y a de l'autre côté Chilling Adventure of Sabrina. Alors Sabrina qui avait eu droit à sa série télé et qui là aussi a droit à une série rétro-horrifique de très bonne facture, toujours par le même scénariste mais avec un dessinateur différent.
Oui, Robert Hack, alors qui est habitué en fait à cette ambiance un peu de choses rétro, puisqu'en fait il est dessiné du Doctor Who et du Judge Dredd, donc c'est quelqu'un qui a l'habitude de se retrouver en fait sur des
personnages très proches
d'Archie. Voilà, de personnages très proches d'Archie, mais surtout en fait de se trouver dans des univers qui ont une continuité un peu énorme, quoi. Donc en fait et surtout c'est un dessin qui colle très bien parce que autant dans Archie on est dans un monde post-apocalyptique, autant là on est vraiment ancré dans les années 50. Et on découvre les débuts de Sabrina en tant que sorcière. Sauf que excite les gentilles tata bienveillantes, rigolotes, point plein de poils. Là, on a des harpies du type antiquité. Si jamais on se met en travers de leur chemin, on finit zigouillé ou pire. Il y a des fois, mieux vaut mourir. Elles sont simplement horribles, terribles. Moi, elles me fichent la trouille. J'ai pas envie.
Oui, c'est très sombre.
C'est très sombre. C'est beaucoup. En fait.
C'est pas ma sorcière bien aimée.
Ah non, c'est pas ma sorcière bien aimée. C'est plutôt fuyons. Et donc, en fait, on suit donc, cette Sabrina qui est un peu encore candide, parce qu'elle est ado, elle est fleur bleue, elle débarque à Grindel. Mais elle a quand même un passé assez lourdingue aussi. Hein. C'est un peu. C'est pas Cosette, mais c'est assez lourdingue également. Donc, mais voilà, elle découvre l'amour et tout ça, sauf qu'en fait, c'est une sorcière. Et là, en fait, ils ont ce qu'on appelle des sisterhood ou des covenants, en fait, des cercles de sorcières. Et donc, elle doit faire le choix d'être une sorcière ou un être humain. Sauf que bon, très clairement, on sait ce qui va se passer, ça va mal se terminer. Donc, c'est vraiment très, très bien dessiné. Enfin, c'est très beau. Moi, je trouve ça très, très beau. Et surtout, bien amené, les personnages sont vraiment effrayants. Et il y a un petit côté aussi un peu plus à détective, parce qu'en fait, on se pose des questions. Le passé est beaucoup plus trouble, en fait. Il y a plein de questions qui se posent sur la famille de Sabrina.
De son père, qui a un rôle très particulier dans le monde de la sorcellerie.
Sa mère, etc. Voilà. Enfin, il y a beaucoup de... C'est quelque chose qui... Alors ça, c'est vraiment pour adultes. Hein. C'est pas... autant Archie, classique, vous pouvez le donner à des enfants, enfin, des jeunes, etc. Il n'y a pas de souci. Autant là, c'est quand même un peu ardos, même Archie Afterlife, parce que c'est quand même du mort-vivant. Mais pour le coup, Sabrina, psychologiquement, j'ai trouvé ça...
Plus dur. C'est deux séries qui ont commencé, l'une en 2013, l'autre en 2014, si je ne me trompe pas.
Oui, elles ont beaucoup de retard parce que, bon, évidemment, Roberto Aguirre-Sacasa fait tout. Enfin, fait tout.
Il est à l'origine de ça,
plus il travaille, voilà. Il travaille dans l'éditorial et il s'occupe des séries télé.
Dont on va parler dans quelques instants, mais vous le comprenez, c'est un personnage qui... à l'heure actuelle, dans le monde d'Archie Comics, est central, et c'est sans doute du fait de sa personnalité, du travail qu'il a effectué, qu'on en arrive à cette décennie, donc les années 2010, où il y a de très grands changements, en tout cas, au sein de cette maison d'édition.
Voilà.
Des changements, il y en a eu grâce à Roberto, donc à Aguirre Sacasa, mais aussi, et là, on est plus proche de nous, puisque nous sommes en 2015, avec Mark Waid.
Voilà, il y a eu un reboot, comme on en parle beaucoup autour de Marvel et DC Comics.
Oui, mais chez eux, c'est tous les deux ans, donc voilà. Ça devient banal.
Disons qu'en 2015, ils se sont dit, depuis 1941, on peut faire
On ne nous en voudra pas.
Voilà, on fait quelque chose, donc il y a eu un grand changement, que ce soit graphiquement, ils ont essayé de faire une rupture graphique, scénaristique, en fait, c'est juste... Scénaristiquement, ils ont décidé de mettre Archie au 21e siècle. C'est toujours des histoires d'adolescents, mais au 21e siècle, donc avec d'autres problématiques qui se posent à lui. Une série qui a connu un succès critique et commercial, donc par l'excellent Mark Waid, qui est connu pour avoir travaillé chez Marvel et DC, et qui est surtout un grand talent. C'est qui sait s'approprier un univers déjà existant et se concentrer vraiment sur les personnages et leurs relations entre eux. Il l'avait fait par exemple pour les 4 Fantastiques avec le regretté Mike Wieringo.
Beaucoup ont redécouvert les personnages des 4 Fantastiques à travers le travail de ces deux artistes.
Voilà, donc et surtout cette impulsion, ça a donné aussi une envie aussi à d'autres artistes plutôt connus, du type quand même juste Adam Hughes, de faire des séries sur Betty et Veronica. Donc lui, il s'occupe de Betty et Veronica, mais il y a une série aussi sur Josie and the Pussycats et Jughead. Donc ça, c'est des séries régulières tirées du reboot. Voilà, donc ça c'est vraiment tiré du reboot, et il faut dire que il y a quand même juste Adam Hughes qui s'occupe de ça, donc ça veut dire que ils ont réussi à attirer des gens qui sont emblématiques dans le monde des comics pour travailler chez Archie, qui même si c'était quelque chose de très classique et qui a touché et surtout inspiré beaucoup d'auteurs d'artistes comics, c'est tout de même quand même quelque chose qui était classé un peu vieillot.
Côté vieillot, bien évidemment, puisque bon, un adolescent des années 40,
voilà,
en 2010, bon, voilà.
Exactement. Et surtout, en fait, si vous regardez le pitch de la première, du premier trade paperback, donc en fait, on va dire c'est le volume relié de tous les,
voilà,
les six premiers
souple.
Numéros. Voilà. Vous allez voir le pitch, ça va vous rappeler quelque chose. Si vous avez vu le premier épisode de la série télé Riverdale, c'est Betty se sépare d'Archie. Donc là, vous voyez, il n'y a pas d'hésitation. Parce qu'en fait, il a une trace de rouge à lèvres sur le cou. Et le lendemain, ils vont en cours. Et là, une nouvelle arrive et elle s'appelle Veronica Lodge. Donc fortement, Riverdale s'est fortement inspiré du reboot d'Archie. D'ailleurs, ils ont même sorti un comics là il y a pas très longtemps pour la sortie du qui est inspiré donc cette fois-ci
directement de la série télé.
Voilà.
La série télé de Riverdale, c'est maintenant que nous allons en parler avec Emily. Vous venez d'entendre une reprise de All Through the Night qui apparaît dans le premier épisode de cette série télé. Riverdale a été développée par Roberto Aguirre Sacasa, tiens donc. Et cette série télé a été demandée par une chaîne de télé, enfin un réseau de télévision qui s'appelle la CW, donc une chaîne américaine.
Qui a même dealé avec Netflix.
Voilà, et en fait, pour la version, enfin justement nous sur le plan international, parce que voilà, l'intérêt de cette série télé Riverdale, c'est que si vous nous écoutez depuis tout à l'heure et que vous vous dites « Tiens, moi j'aimerais bien lire du Archie », le problème c'est qu'Archie Comics n'existe pas en français. Donc si vous n'avez pas envie de lire de la bande dessinée
en anglais,
mieux vaut vous rabattre sur cette série télé, donc de ce réseau CW, mais qui pour le sur le plan international est distribué par Netflix. Alors juste pour resituer la chaîne, et ça va vous donner un peu aussi le ton de cette série Riverdale, la chaîne qui a commandé cette série dans l'univers d'Archie, c'est la chaîne de télé qui diffuse aussi Supergirl, Arrow, V100, V Originals, High Zombie, donc toutes des séries qui, si on voulait les cibler, Flash aussi, si on voulait un peu cibler le public, c'est grosso modo des lycéens jusqu'aux jeunes adultes, donc allez, de 18, allez, de 16 à 15 à 35 ans. Voilà, on va situer ça.
Voilà. En plus, donc, c'est eux qui ont l'univers, en fait, tout ce qui est série Warner, enfin DC Comics.
Oui, parce que c'est...
Voilà, c'est eux qui ont ça, Legend of Tomorrow, voilà. Aussi, oubliable. Mais...
Cette chaîne est de toute façon justement détenue à parité entre Time Warner et CBS.
Voilà, tout à fait. Donc voilà. C'est CW.
Tout à fait. Donc c'est une série télé qui, si c'est un projet qui a été mené un peu sur le long terme, puisqu'on en parlait déjà en 2015, le premier épisode a été diffusé en janvier 2017 et c'est une série qui est toujours en cours. Alors pour vous faire le pitch rapidement avant qu'Emily vous détaille un peu plus tout ce que cette série a d'intéressant, en fait on est à Riverdale et on suit le quotidien d'un jeune homme et de ses amis dans cette petite ville. Et c'est une bourgade sans histoire mais qui soudain va être remuée par la disparition brutale d'un lycéen populaire. Archie, jeune homme discret qui préfère la musique au football américain, passe ses journées avec Betty, sa meilleure amie, amoureuse de lui en secret. Sa vie va changer après cet événement tragique et l'arrivée en ville de Veronica, une étudiante venue de New York. Un résumé de la série télé qui vous fait penser bien évidemment à la bande dessinée dont on vous parlait tout à l'heure. Et pour autant, cette série télé est très différente de sa version papier.
Oui, alors déjà... Donc Roberto Aguirre-Sacasa est ce qu'on appelle le showrunner. Voilà, c'est lui qui s'occupe de la direction artistique, de superviser les scénarios, les scénarii, pardon. Donc cette série, elle est très bien. Pourquoi ? En fait, bon, en même temps, ils ont fait une pub d'enfer en disant qu'ils étaient à la croisée entre Vampire Diaries et Twin Peaks. Donc déjà, les mecs, ils se sont dit, tout de suite. Voilà.
Mais d'ailleurs, dans les séries, en termes d'inspiration, en tout cas, c'est une série qui a toujours un coup un peu dans le rétroviseur, puisque on voit clairement les inspirations. Bon, bien évidemment, l'univers de la bande dessinée d'Archie Comics. Ce qui est assez amusant, c'est que donc Archie étant une BD des années 40, à un moment donné, dans le premier épisode, il parle de Montgomery Clift, acteur majeur du cinéma américain des années 40. Mais on y retrouve aussi au casting deux personnages, deux acteurs particuliers. On a Luke Perry, qui vient évidemment de Beverly Hills. Donc coucou Beverly Hills, la série pour ados des années 90. Et puis Twin Peaks, comme tu le notes, puisqu'on a Madchen Amick qui joue le rôle de Betty Cooper. Oui, parce que forcément,
elle joue le rôle de la mère
de Betty Cooper. Mais donc voilà, beaucoup d'inspiration d'une part du côté des séries télé qui s'intéressaient au monde de l'adolescent américain. Un petit regard du côté de la bande dessinée, mais comme tu le notais aussi sur Twin Peaks.
Je pense qu'il y a un gros côté fanboy de la part d'Aguirre Sacasa. Au-delà de ça, je pense que c'est plutôt l'esthétique, au-delà du fait qu'il y ait des clins d'œil, etc. C'est surtout une esthétique, l'esthétique baroque qu'on peut trouver parfois.
Oui, là, ces clins d'œil, c'est plus une façon de dire, on sait d'où l'on vient. Et plutôt que de lutter souffrir contre. Ou de lutter contre cette comparaison, au contraire, ils en font un élément fort, ils se disent, voilà, on est dans cette continuité-là, mais avec une particularité qui est la nôtre, celle d'amener le monde d'Archie dans un public, vers un public beaucoup plus adulte et vers un public télévisuel.
Voilà, en fait, Archie, en fait, on peut avoir 15 ans, comme on peut avoir 40 ans et avoir aimé Twin Peaks et comprendre le double langage, en fait. Cette série a été faite autant pour les teenagers qui regardaient justement, qui veulent regarder une série pour ados, et pour des gens un peu plus exigeants, parce qu'en fait, quand on voit maintenant tout ce qu'on peut avoir comme série et la qualité, on va dire, même au-delà de scénaristique, la qualité de direction, la qualité d'image, la qualité au niveau de la photographie, en fait, c'est une série qui a été exigeante avec elle-même et ça se voit. Alors, on aime ou on n'aime pas, parce qu'effectivement, voilà, c'est une histoire d'adolescent, donc il y a des triangles amoureux, il y a des côtés, il y a des trucs à l'eau de rose, effectivement, ça c'est vrai, on ne peut pas le nier. Si on n'arrive pas à faire passer outre ça, on ne regarde pas la série, parce qu'en fait, objectivement, elle est jolie, c'est bien, les acteurs jouent bien dans l'ensemble.
Non, c'est une série qui n'a pas du tout à rougir des comparaisons que l'on pourrait faire justement avec Beverly Hills ou Twin Peaks. Bon, dans un registre très différent, mais comme tu le notes, il y a une histoire qui est extrêmement bien écrite et élaborée avec plein de rebondissements, une esthétique et une image qui est très travaillée pour donner vraiment une patte unique à cette série télé. Allez regarder quelques images sur le net, vous verrez ce dont on parle. C'est très léché, très recherché. Et on a un lien très fort d'ailleurs avec cette esthétique, ça permet justement, elle est tellement recherchée, raffinée, qu'elle fait un lien direct avec l'univers de la BD, donc c'est quelque chose qui est extrêmement bien trouvé, comme d'ailleurs les acteurs qu'on a au casting qui permettent aussi de s'inscrire dans cette continuité dont on parlait tout à l'heure. C'est une série vraiment très haut de gamme. On ne se moque pas, en tout cas, la chaîne n'a pas fait du bas de gamme. Elle a vraiment cherché à faire quelque chose de très bien.
Pour le coup, CW, ce qu'on peut toujours leur reprocher, c'est qu'ils font des choses un peu cheap. Hein. Legends of Tomorrow, c'est horrible. Enfin, c'est juste que c'est tourné avec les pieds. Certains acteurs ne jouent pas tous très très bien. La photographie est quelconque. On peut la voir n'importe où. Alors que là, c'est vraiment d'une qualité Netflix.
Rien n'est laissé au hasard.
Voilà, c'est des gens. Ils sont dit. Si jamais on fait un truc ado quelconque, on va passer à travers ou on aura peut-être deux saisons, une saison. Et c'est tout. Donc là, ils ont vraiment mis les...
Ils n'ont pas juste voulu reprendre une licence en se disant, tiens, on va faire un peu d'argent là-dessus.
On va faire un peu de pognon,
voilà,
et on va se casser. Non, non, là, pour le coup, ça a été vraiment très travaillé. Et je pense que vraiment, le showrunner, il est pour beaucoup, enfin Roberto Aguirre Sacasa y est pour beaucoup. Ensuite, il faut savoir que maintenant, en fait, ils ont une, depuis justement, grâce à ça, ils ont un partenariat avec Warner pour aussi distribuer les comics.
D'accord.
Sache-le, voilà. Ça a changé. Donc, peut-être que dans le futur, si ça rentre dans les... Peut-être qu'Urban...
Peut-être que donc on pourra avoir une distribution française alors, de ça... cette bande dessinée. Alors d'ailleurs, je parlerai tout à l'heure, parce que j'ai découvert qu'en fait, on disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas eu d'Archie Comics en français. Et bien, j'ai trouvé qu'en fait, il y avait une petite aventure de ce comics en France. C'était en 1971, mais ça, on en parlera en conclusion. On va rester quand même encore un tout petit peu sur cette série télé. Une série télé qui est donc un programme haut de gamme, extrêmement soigné dans le moindre de ses détails. Et moi, je dis cela, notamment, alors que je suis vraiment, mais alors vraiment pas le public de ce genre de série. J'ai quand même regardé les trois premiers épisodes avec un certain plaisir. Mais bon, le temps pour moi quand même de constater que je suis pas trop fait pour celle-ci. Dans le domaine d'ailleurs des séries adolescentes, il y en a une qui me revient à l'esprit, c'est Friday Night Live. Je ne sais pas si tu avais regardé, qui elle avait un peu ma préférence. Mais c'est pas d'une grande originalité. Bon, voilà, en tout cas au vu des rebondissements qui sont proposés, voilà, mais c'est très bien fait. Et c'est très plaisant quand même à regarder comme série. Oui. Ça se suit vraiment d'une manière très agréable. Et c'est quelque part, c'est pas forcément justement l'histoire qui fait que cette série peut se détacher de toutes les séries télé qui nous ont proposées à l'heure actuelle, mais c'est par sa qualité de réalisation, par ce travail de l'image, par tous ces éléments qui font que d'un coup on a quelque chose qui est réussi. Et c'est quand même agréable de regarder une série qui, comme tu le notes, n'est pas filmée avec ses pieds. Moi, j'ai à l'esprit une autre série de vampires qui s'appelle Van Helsing, qui a aussi été distribuée sur Netflix et que j'ai pu voir. Et là, en l'occurrence, on a des choses qui sont très mal écrites et parfois vraiment filmées avec les pieds. Voilà, donc ça, c'est la petite parenthèse sur une série que je vous déconseille par ailleurs. Voilà. Mais si vous êtes dans la tranche d'âge dont on parlait à l'instant, les 20-30 ans, si vous êtes un peu curieux voilà, d'une nouvelle série qui parle d'adolescents aux États-Unis avec un côté un peu justement policier, mystère, comme on disait tout à l'heure, allez jeter un coup d'œil sur ce Riverdale. Dans cette émission, aujourd'hui, avec Émilie, on vous parlait en long, en large d'Archie Comics, la BD. On vous a fait un peu l'histoire de cette maison d'édition. Et puis, on a terminé avec cette série télé Riverdale que vous pouvez découvrir à l'heure actuelle grâce à Netflix, en France en tout cas. Et tu nous disais tout à l'heure qu'en fait, la Warner avait acquis, on va dire, les droits de distribution pour la bande dessinée. Alors, la série télé, d'ailleurs, est renouvelée pour une saison 2. Ça, c'est une chose qui est acquise. Elle n'est pas encore terminée à la saison 1, mais on sait maintenant qu'il y aura une saison 2.
Oui.
Du côté de la série BD, bah, il y aura peut-être un peu de changement pour nous Français qui n'avons pas connu la bande dessinée Archie. Mais néanmoins, il y a eu une petite incursion Ça date du début des années 70, donc d'Archie Comics en France. C'était quelque chose de très particulier. Alors, est-ce que tu sais, par exemple, comment s'appelait Archie en France
non,
en 71
Non.
Il s'appelait Robert. Voilà, en fait, dans les 70, on va dire, c'est le moment où Archie Comics est au sommet peut-être de sa renommée sur le continent américain. Et il se dit, bah, tiens, on va traduire en français nos bandes dessinées, donc pour le public canadien. Québécois notamment, mais d'un coup ils se sont dit tiens, ça serait peut-être intéressant de voir du côté de l'Atlantique auprès de nos amis francophones. Et en fait, cette série ne s'appelle plus Archie en 71 en France, mais Lucky. Et elle paraît dans des livres de poche. Voilà, donc il y a différentes histoires. Et en fait, on a deux personnages principaux qui sont des reporters, Luke Junior, qui est un reporter, et Criquet, qui lui est un autre reporter, et donc ils vivent leurs histoires. Et entre chacune de leurs histoires, dans ces livres de 200 pages, on a par. Blog de 5-6 pages des histoires d'Archie Comics. Voilà, et donc c'est Archie qu'on retrouve d'ailleurs en couverture, même s'il occupe peu d'espace à l'intérieur de cette revue. Et on retrouve Archie, mais alors par contre, il a été complètement francisé. Alors la traduction, vous chercherez des pages sur le net, la traduction semble à peu près correcte, mais par contre, on s'est dit, alors je sais pas qui s'est dit ça à cette époque-là.
Non, mais en fait, c'est pas ça, c'est que la voilà. traduction, non, mais la traduction, il faut dire, dans les années 70, on n'était pas dans de la traduction au plus voilà. fidèle d'un point de vue culturel, on était dans de l'adaptation.
Voilà, fait. Mais si vous vous souvenez, quand on avait fait notre émission sur Star Wars, je vous avais présenté ce petit 45 tours qui résume l'histoire du premier épisode où Chewbacca s'appelle Chictaba. Voilà, mais là vous notez quand même que d'ailleurs dans Chewbacca Chictaba, au moins sur le plan sonore, on s'y retrouve. Et là, chez Archie Comics, eh ben Archie c'est Robert, Jughead c'est Serge, Reggie c'est Gontran. Alors là, j'aimerais bien comprendre pourquoi Reggie, on passe de Reggie à Gontran. Betty c'est Hélène. Alors on aurait pu comprendre Béatrice. Voilà.
Pourquoi pas
mais, ou autre chose, hein, mais non, c'est Hélène. Véronica, c'est Brigitte. Véronique, ça semblait pas
ça, oui, non,
trop
c'est trop pris. Pris, voilà. Désolé. Véronique, non. Brigitte, ouais. Ouais,
voilà.
Ouais.
Et le lycée Riverdale, ça devient le lycée Fournier.
Pourquoi
voilà.
pas
je veux dire. Qui,
Là où bon. On en est, enfin, je veux dire, c'est le moins pire. Hein, je veux dire, donc, des choix, là, je trouve que le lycée Fournier, encore, c'est soft. Hein.
Mais bon, voilà, en 71, Archie sert un peu de bouche-trou dans cette publication qui s'intitulait Lucky. Et l'aventure sera de courte durée, puisqu'il y aura quelques numéros, mais ensuite le titre disparaîtra assez rapidement, sans doute parce que culturellement, si Archie est très ancré dans. L'adolescence américaine, surtout en 71, j'ai envie de dire, en France, ça ne parlait pas du tout au public français.
Non.
Alors par contre, chose amusante, il se trouve que les derniers numéros d'Archie en France, les dernières histoires parues en français d'Archie, paraîtront en fait dans une BD pour adultes. Ce qui n'a vraiment aucun rapport.
Aussi, il faut un peu quand même un peu de tension, libérer la tension. Une
voilà.
fois que la tension est libérée, on a un peu de détente et après on repart. Quoi.
Après cette incursion, donc plus rien du tout jusqu'à maintenant, parce que finalement, est-ce que la série de télé ne permettrait pas, Émilie, à quelques titres de Archie Comics de trouver leur chemin en France, notamment les deux dont on a parlé tout à l'heure, Chilling Adventure of Sabrina et Afterlife with Archie, qui finalement, même s'ils sont très ancrés dans cet univers d'Archie, ont un côté peut-être moins américain.
Alors en fait, que ce soit même le reboot pourrait très bien passer parce qu'en fait, même si ça se passe aux États-Unis, ça parle de problèmes qui sont universels en fait aux adolescents. Hein. Surtout,
ouais,
il y a une
de magie.
Non, pas dans Archie le reboot. Dans Sabrina, certes, même la nouvelle série, bon, voilà. Mais en fait, il y a aussi une pluralité. Soyons honnêtes, hein, parce que tout le monde n'est pas blanc aux États-Unis. Et donc, en fait, ils ont fait une pluralité qui s'est retrouvée aussi à l'écran, donc, notamment avec Josie and the Pussycats, qui sont
Exactement.
Noirs. Et sinon, c'est vrai que la ligne horrifique est quand même, disons, accessible à tous, puisqu'en fait, c'est plus une esthétique qui a été... on a utilisé...
Mise en avant.
Voilà, c'est une esthétique qui est mise en avant... Il a fait le même travail. Le travail qu'il a fait sur la ligne rétro-horreur, il l'a fait sur Riverdale. C'est-à-dire, c'est bien écrit. Voilà, bien écrit.
En tout cas, les années 2010 sont une décennie fastueuse pour Archie et la maison d'édition Archie Comics. Et encore une fois, si ce que vous venez d'entendre vous a donné envie d'en savoir plus, bah déjà, vous pouvez regarder la série télé Riverdale. Et si vous êtes un lecteur de comics, que l'anglais ne vous fait pas peur, vous pouvez trouver aussi ces bandes dessinées-là chez votre libraire de comics préféré. Merci, Émilie. On se retrouve bientôt pour parler bandes dessinées et jeux de société.